France Inter, le 18-20.
L'intelligence artificielle, c'est notre thème ce soir au téléphone sonne. Révolution technique, mais aussi un énorme choc social et économique. L'intelligence artificielle va changer nos vies, augmenter la productivité, relancer la consommation, mais aussi menacer des millions d'emplois. Risque-t-on dans le futur de devenir les esclaves des robots? Les machines vont penser, la machine va-t-elle surpasser l'humain? Quel bienfait, quel danger? Avec l'intelligence artificielle, le cerveau face à l'ordinateur, est-ce le grand défi des prochaines années? C'est quoi un ordinateur intelligent? Pour répondre à vos questions très concrètes sur cette intelligence artificielle, deux invités ce soir dans ce studio, Jean-Gabriel Ganassien, qui est spécialiste de l'intelligence artificielle, co-auteur avec Jean-Philippe Braly de ce livre « Le temps des robots est-il venu ?» C'est paru aux éditions Coué. Bonsoir, monsieur Ganassien.
Bonsoir.
Autre invité, Rodolphe Gélin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes vice-président de SoftBank Robotics, c'est une société de robotique. Vous êtes en charge de l'innovation. Vous avez publié un ouvrage à destination des jeunes, des 8-12 ans, Les robots aux éditions Le Pommier.
Pierre Veil, le téléphone sonne.
Premier appel, Mathieu. Bonsoir, Mathieu.
Bonsoir.
Vous vous trouvez à Saint-Chêne-les-Orgues, c'est ça?
À Saint-Étienne-les-Orgues.
Ah, Saint-Étienne-les-Orgues. Je n'arrive pas à lire le papier qu'on me met sous les yeux. On écoute votre question, Mathieu.
Alors, je comprends bien qu'il va y avoir un grand développement de robotique et de compréhension des systèmes. En plus, derrière, il y a la physique quantique qui va agir assez vite. Mais je suis un peu surpris de la façon dont on parle dans les médias de ce problème-là, compte tenu du congrès universitaire qu'il y a eu il y a 3 ans aux États-Unis. Je remercie France Inter d'avoir fait passer cette information, si on ne le saurait pas. À savoir que le sujet de cette réunion d'universitaire, c'était l'intelligence artificielle, et la conclusion générale du congrès était qu'on n'était pas prêt d'y arriver, c'est-à-dire à la véritable intelligence artificielle, la raison étant qu'on ne sait pas du tout ce qu'est l'intelligence. Voilà, je peux poser une question supplémentaire après, si vous voulez.
Restez en ligne avec nous. Alors, d'abord, on va essayer de définir l'intelligence. Jean-Gabriel Ganassien, pour vous, c'est quoi l'intelligence? D'abord, en quelques mots, et après, l'intelligence artificielle.
Alors, l'intelligence, je ne sais pas. C'est d'ailleurs pour ça que je fais de l'intelligence artificielle. C'est une discipline scientifique, l'intelligence artificielle, qui étudie l'intelligence avec les machines, en essayant d'en simuler différentes fonctions. Disons, pour le dire autrement, que l'intelligence, c'est la résultante de tout un tas de facultés cognitives. Par exemple, de mémoriser, de raisonner, de percevoir. Et l'intelligence artificielle, ça essaye de prendre chacune de ces facultés cognitives et de les simuler sur les machines pour mieux les comprendre. Et puis ensuite, ça rend énormément de services. Et justement, avec les résultats de l'intelligence artificielle, on est capable, entre autres, de fabriquer des robots qui peuvent être extrêmement utiles. Et donc là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Mathieu. Nous y sommes parce que nous sommes capables de simuler énormément de choses. Alors peut-être que lui, il veut parler d'autre chose. Il voudrait parler d'une machine qui nous dépasse en tout point. Mais ça, c'est une autre question dont je ne parlerai pas ici.
Mathieu, vous vouliez ajouter quelque chose, poser une autre question? Allez-y, Mathieu.
Ma question, ça recouvre le domaine musical. C'est qu'on a un développement de synthétiseurs de plus en plus complexes. Et je me rappelle d'un entretien que j'ai eu avec le directeur du centre de Computers de l'université de San Diego, où j'étais conférencier, et il me disait vraiment, on n'arrive pas à avancer, parce que, alors je dis, je comprends bien ce qu'a dit monsieur, mais on n'arrive pas à avancer dans le domaine de synthèse des sons, parce qu'on n'a pas la moindre idée de ce que font réellement les doigts et les artistes. On n'y comprend rien, on n'avance pas, on est bloqué. Qu'en pensent nos amis là?
Sur ce point, Rodolphe Gélin.
Alors, ça dépend ce qu'on cherche à faire faire à des robots musiciens, si c'est de ça dont il s'agit. Donc là, il y a eu un robot qui a été chef d'orchestre. On peut, la difficulté, c'est de modéliser les choses. Si on arrive à les modéliser, le robot, l'intelligence artificielle pourra le faire. Et quand on n'arrive pas à les modéliser, aujourd'hui, il y a des systèmes à base de learning qui vont faire qu'on reproduit un fonctionnement sans vraiment comprendre le mécanisme qui se cache derrière, le modèle mathématique qui se dissimule derrière. Après, c'est vrai que les questions de créativité, créativité, ça, on ne sait pas bien les modéliser. Si on savait modéliser la créativité, on aurait des machines qui seraient capables, qui seraient des musiciens créatifs extraordinaires. Aujourd'hui, elles vont surtout reproduire des choses qui existent.
Alors déjà,
on fait des petites choses quand même sur la créativité. Hein, il faut, enfin, par exemple, en musique, il y a un certain nombre d'années, hein, nous avions fait un système qui générait automatiquement la ligne de basse dans un trio rythmique en jazz. Et donc, c'était un tout petit peu créatif, hein, comme l'est un musicien de jazz qui improvise.
C'était Jean-Gabriel Ganassian. Alors, beaucoup de questions très concrètes hein, sur le site de l'émission. On nous écrit, là c'est Michel, le système tant décrié admission post-bac était-ce une application de l'intelligence artificielle? Le métro automatique, est-ce que c'est de l'intelligence artificielle? Rodolphe Gélin, je rappelle que vous êtes vice-président d'une société de robotique SoftBank Robotics.
Oui, certainement, c'est de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire c'est des algorithmes qui vont prendre des décisions à partir de, encore une fois, de modèles qu'on aura donnés à la machine. Le terme intelligence artificielle, il regroupe énormément de choses. Autrefois, on en parlait avec Jean-Gabriel, c'était des bases de règles. Donc, pour post-bac, il y avait un certain nombre de règles qui vont traiter un nombre incalculable d'entrées et qui vont prendre des décisions à partir de ces règles. Donc, oui, c'est une forme d'intelligence artificielle. Le métro automatique, en effet, c'est aussi, il y a des systèmes de capteurs, des systèmes de contrôles qui peuvent rentrer dans ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on ne s'en rend pas compte, mais il y en a partout de l'intelligence artificielle. On voit des publicités aujourd'hui sur des téléphones avec de l'intelligence artificielle dedans. Il y a très longtemps qu'il y a de l'intelligence artificielle dans nos téléphones.
Alors, dans ce domaine, par exemple, des transports, comment peut-on aller encore plus loin dans le domaine de l'intelligence artificielle dans les prochaines années? On a bon, le métro automatique, on peut aller encore plus loin. Jean-Gabriel Ganassian.
Ah ben, bien sûr qu'on peut aller beaucoup plus loin. Les voitures, aujourd'hui, hein, comprennent énormément de systèmes d'intelligence artificielle. Hein. Par exemple, hein, vous avez des techniques qui empêchent de bloquer les roues. Vous voyez, il y a des systèmes qui essayeront de reprendre la main hein, si le conducteur risque d'aller dans le décor. Et puis, il y a l'idée de voiture autonome, bien sûr.
Alors hein, ça, justement, on en parle beaucoup. Donc, la voiture sans chauffeur?
Voiture. Alors, ça peut être la voiture qui est autonome sur certains segments. La voiture autonome, par exemple, sur l'autoroute, parce que c'est extrêmement ennuyeux de conduire. Hein. C'est le moment où on a tendance à s'endormir. Ou alors, voiture autonome dans la circulation, lorsque les automobiles sont pare-choc contre pare-choc. Donc ça, c'est des choses qui sont tout près d'arriver sur le marché. Et puis, il y a l'idée un peu plus ambitieuse d'avoir une voiture sans aucun conducteur, hein, c'est-à-dire qu'il soit d'un bout à l'autre autonome, peut-être qu'on y arrivera, mais je crois que ça pose un certain nombre de
problèmes.
Ah oui,
expliquez-nous comment ça peut fonctionner, ça, j'ai du mal à imaginer.
Eh bien, une voiture autonome, c'est un robot. Un robot, ça a des capteurs. À partir de capteurs, hein, ça construit une représentation, c'est-à-dire que ça interprète les signaux venus de capteurs, et puis à partir de ça, ça va raisonner. Raisonner pour prendre des décisions, c'est-à-dire dire j'accélère, je freine, je tourne à gauche, je tourne à droite, etc. Et c'est comme ça hein, qu'est construite la voiture autonome. Alors pour ça, bien sûr, on a fait beaucoup de progrès ces dernières années dans l'interprétation des signaux qui viennent de capteurs. On a des caméras sur la voiture autonome et on doit identifier le goudron, les autres voitures, les piétons, etc. Et puis ensuite, il y a des outils d'intelligence artificielle qui eux-mêmes utilisent l'apprentissage pour essayer d'éviter les obstacles et aller le plus vite possible au but que l'on s'est fixé.
Rodolphe Gélin.
La conduite, en fait, on suit des règles qui sont données par le code de la route. Et donc, s'il y a des règles, il y a une espèce de modèle du comportement, et ça, on peut le programmer dans un robot. La difficulté, c'est que, en effet, quand les règles s'appliquent pas bien, quand on voit pas bien les bords de la route, à ce moment-là, toutes les règles qu'on a apprises, et ben là, il y a un peu d'interprétation, et c'est là qu'on voit la capacité de l'esprit humain, c'est d'être capable de s'adapter quand les règles qu'on lui a apprises, ça s'applique pas exactement. Et c'est là qu'on voit la différence entre ce que peut faire une voiture autonome, alors même si elle progresse beaucoup sur sa capacité à percevoir des signaux de plus en plus compliqués, il y a encore dans des situations que l'automatisation n'arrive pas à régler et c'est là qu'on a encore besoin de l'homme.
Olivier à Quimper nous écoute et veut participer à l'émission. Bonsoir Olivier.
Oui, bonsoir.
Nos invités vous écoutent. L'intelligence artificielle, quel est l'aspect qui vous intéresse?
Alors moi, je pensais que nécessairement toutes les machines couplées à l'intelligence artificielle, elles sont faites pour surpasser l'homme. Je vois pour aller plus vite, pour calculer plus vite, pour être plus rapide dans les chaînes de montage ou dans les décisions automatiques. Toutes les machines, aucune machine n'est construite pour nous diminuer, c'est évident. Par contre, la question essentielle, c'est qui maîtrise la décision d'agir. Certains cas, c'est intéressant que la machine le fasse. Par exemple, j'ai de la fumée dans la maison, une alerte incendie déclenche des extincteurs automatiques, j'ai une alerte météo, la maison va se mettre en sécurité, je peux réguler le trafic routier. Tout ça, ce sont des décisions qui peuvent être prises par la machine sur des modèles qui sont déjà prédéfinis. Par contre, après, la dérive, c'est Terminator, les guerres nucléaires, enfin voilà, tout ce qui peut être automatiquement déclenché par une machine sans contrôle humain qui peut être au-delà de ce que l'on souhaite faire aux machines.
Alors, sur ces points évoqués par Olivier, Jean-Gabriel Ganassia.
Oui, bien sûr, l'intelligence artificielle, ça permet de construire des machines qui vont être autonomes au sens technique, c'est-à-dire qu'il va y avoir une chaîne de causalité qui va de la prise d'information à la décision. Mmh. Alors, pour un tas de choses, c'est très utile. Si vous envoyez un robot sur Mars, on est beaucoup trop loin pour pouvoir le commander. Donc, il faut qu'il prenne un certain nombre de décisions tout seul. Et de même, comme on le disait ici, si vous avez un système de sécurité, incendie, il faudrait qu'il le fasse tout seul. Mais il y a beaucoup d'autres applications où ce qu'on souhaite, c'est que le robot soit un partenaire de l'homme. Et bien sûr, qu'il puisse échanger avec l'homme. Donc, quelquefois, il faut que le robot soit capable d'expliquer aussi ce qu'il fait et qu'il y ait un échange d'informations entre la machine et l'homme pour que, collectivement, on soit plus intelligent.
Olivier l'évoquait, il parlait de Terminator, on a des questions, des courriels. Quelle application de l'intelligence artificielle dans le secteur militaire ? Est-ce que des robots vont un jour faire la guerre, combattre à la place des soldats, donner la mort sans recevoir un ordre d'un humain? Est-ce que c'est pas totalement effrayant? Je vous lis ces remarques des auditeurs. Rodolphe Gélin.
La première question d'Olivier était excellente. Qui maîtrise la décision? C'est ça qui est très bien. C'est vrai que le robot prend des décisions, mais c'est nous qui lui donnons les ordres, c'est nous qui lui donnons les objectifs, et après, il va prendre des décisions de façon autonome pour réaliser cet objectif. Si un militaire donne l'ordre au robot d'aller tuer un terroriste, eh ben le robot va le faire. Le robot n'a pas d'état d'âme, le robot n'a pas de sens moral, et c'est un homme qui aura pris la décision de tuer le terroriste en question, en lui donnant un certain nombre de critères sur comment identifier le terroriste, etc. Mais voilà, c'est vraiment ça qu'il ne faut pas perdre de vue. Quelle que soit l'intelligence des systèmes, derrière, il y a un homme qui a configuré ce système et qui a donné l'ordre et qui a donné son objectif au robot. Un robot ne choisit pas lui-même ses objectifs macroscopiques.
Michel nous a écrit « Quel modèle de société peut induire une robotisation de la société ? Sommes-nous certains que ces robots appliqueront une éthique irréprochable de la société ?» Voilà, la morale des robots. Jean-Gabriel Ganassia.
On a beaucoup travaillé sur cette question-là. D'abord, est-ce que on peut simuler sur des machines ce que sont les règles morales? Alors ça, c'est une question ouverte. J'ai même très personnellement travaillé là-dessus.
Vous avez une réponse?
On peut prendre des systèmes normatifs. Vous savez, les systèmes éthiques, ce sont des hommes qui les ont conçus. Et on peut essayer de les appliquer, de les comparer. Mais bien sûr, ce qui est difficile, c'est le jugement. Je vais donner un exemple qui vient du domaine militaire, puisque nous venons d'en parler. Un roboticien, Ron Harkin, aux États-Unis, disait « Les robots vont être plus éthiques que les soldats parce qu'ils appliqueront les règles de la guerre juste. » Alors on se dit, il écrivait ça au moment de la guerre d'Irak, il a vu toute la bavure qui était... alors il s'est dit, ça a l'air d'être vrai. Et puis, quand vous regardez, vous vous demandez, mais qu'est-ce que c'est que les règles de la guerre juste? Alors les règles de la guerre juste, il y en a deux. La première, c'est la règle de discrimination. Il faut distinguer entre le civil et le militaire. Mmh. Est-ce que vous imaginez qu'un robot est capable de distinguer entre un civil et un militaire dans des règles, dans des guerres asymétriques dans lesquelles les soldats n'ont pas d'uniforme? Alors c'est encore même plus compliqué que ça, parce que cette règle, elle a des exceptions. Parce qu'une fois qu'un militaire est désarmé, on doit l'épargner. Et en revanche, si un civil prend des armes, il est considéré comme un combattant. Et puis la deuxième règle, qui est encore pire, c'est la règle de proportionnalité. Qu'est-ce que ça veut dire que la réponse doit être proportionnelle à l'attaque? Alors donc, vous voyez que c'est tout ça montre que les règles éthiques, si on veut les mettre en œuvre dans des machines, quelquefois c'est extrêmement difficile.
Voilà, Jean-Gabriel Ganassia, je rappelle, vous avez écrit « Le temps des robots est-il venu ?», un livre qui est paru aux éditions Coué. Dominique à Toulouse est avec nous. Bonsoir Dominique.
Oui, bonsoir. Écoutez, moi je voulais aborder le sujet de la formation, particulièrement en France d'ailleurs, parce que j'avais appelé il y a 2 ans, vous faisiez une émission sur le téléphone sonne sur les métiers d'avenir, et je m'intéresse toujours beaucoup aux imprimantes 3D d'ailleurs, et les 3 intervenants de l'époque avaient été catégoriques, aucun centre de formation sur imprimante 3D en France. Voilà, donc moi je voulais savoir pour l'intelligence artificielle où en est-on en France, quoi. Y a-t-il déjà des centres de formation qui existent, ou des écoles, ou bien va-t-on encore une fois prendre le train en marche? Parce que bon, nous avons un président qui nous dit qu'il faut se tourner vers les métiers d'avenir. Bon, oui. Moi je veux bien, il n'y a pas de problème, hein, mais s'il n'y a pas de centre de formation, ou peut-être en existe-t-il, c'est ce que je voudrais savoir, ça va devenir compliqué. Autrement, on va encore une fois de plus prendre le train en marche, je dirais. Oui. Et voilà quoi, l'intelligence artificielle, elle n'est pas à notre porte là, hein, elle a ouvert la porte, hein, ça c'est clair. Donc dans 6 ans, elle aura grimpé au plafond. Donc existe-t-il des centres de formation en France, ou des écoles?
En tout cas, il existe une mission gouvernementale officielle qui travaille sur l'intelligence artificielle. Officielle en France, elle est dirigée par le mathématicien et député La République En Marche de l'Essonne, Cédric Villani, sur les formations à l'intelligence artificielle. Jean-Gabriel Ganassia, on est en avance, on est en retard?
Je ne sais pas si on est en avance ou en retard, mais il y a des formations depuis longtemps. Hein, il y en a dans mon université, entre autres, hein, l'université Pierre et Marie Curie, qui vient d'ailleurs, hein, depuis le 1er janvier, d'être baptisée Sorbonne Université. Mais il y en a aussi Orsay, enfin, il y en a à Paris, il y en a à Grenoble, il y en a à Toulouse. Hein, il y a des instituts polytechniques, il y a des
écoles
d'ingénieurs.
Comment ça fonctionne, ces formations?
Alors, ces formations,
qu'est-ce qu'on apprend?
Alors, on apprend d'abord l'informatique. Oui, l'intelligence artificielle, c'est d'abord de l'informatique. Et pour faire de l'informatique, il y a des bases mathématiques qui sont nécessaires, hein, des bases en logique, des bases en statistique. Et ensuite, en informatique, on apprend les principes, on apprend l'algorithmique. Hein, parce qu'avant de programmer, hein, il faut d'abord avoir les idées claires. Hein, et pour avoir les idées claires, justement, il faut concevoir des algorithmes avec des propriétés qui font que ces algorithmes sont capables de passer à l'échelle. Et puis ensuite, on apprend les langages de programmation. Et puis ensuite, on apprend des techniques d'intelligence artificielle. Donc, vous voyez, tout ça, c'est très technique. Ça prend un certain nombre d'années, hein, ça demande des qualités, mais je crois que c'est vraiment possible. Et je pense que cet auditeur a raison, je crois qu'il faut développer les formations. Il faut non seulement qu'il y ait plus de formations, parce que je crois qu'il n'y en a pas assez, mais il faut aussi, et je crois que c'est important, que les jeunes aient plus le goût de la technique. Hein. Je crois qu'après le bac, il n'y en a peut-être pas assez qui s'engagent, je crois, dans ces métiers techniques. Hein, et ce sont les métiers d'avenir. Et je crois qu'il faut dire aussi que ce sont des métiers qu'il faut coupler éventuellement avec d'autres formations. Hein, c'est-à-dire qu'on peut faire de l'informatique et de l'intelligence artificielle avec d'autres choses, avec de la chimie, avec de la biologie, avec des humanités. Hein. Par exemple, il y a des formations de journalisme de données. Hein. Les journalistes, peut-être dans le futur, hein, auront nécessairement une compréhension du traitement des données pour être capables, non seulement de raconter l'actualité, mais aussi d'interpréter l'ensemble des informations qui sont sur le net pour leur donner sens.
Rodolphe Gélin ?
Oui, il faut que l'auditeur soit rassuré. Il y a beaucoup, beaucoup de mathématiques derrière l'intelligence artificielle moderne et on a une très bonne école mathématique, comme Cédric Villani le prouve, et ça nous donne de très bonnes bases. Et les ingénieurs français, le problème, ce n'est pas tellement la formation des chercheurs et des ingénieurs français, c'est de réussir à les garder en France pour qu'ils exploitent leurs compétences dans notre beau pays.
Patrice est avec nous. Bonsoir Patrice.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Je pense que les nouvelles technologies peuvent apporter le meilleur comme le plus discutable quant à leur utilisation. Je vais prendre 2 exemples. Je prendrai l'exemple, par exemple, de la formation à distance liée à l'intelligence artificielle. Il se dit que de plus en plus, la formation des enseignants passerait grâce aux nouvelles technologies par Internet. La question qui se pose, c'est quid de l'apprentissage des relations humaines dans ce cas? Quid de l'apprentissage des travaux de groupe en situation réelle, ce qui est très important? Si eux-mêmes, ces enseignants, ne sont pas mis en situation, comment vont-ils le faire? Comment vont-ils le susciter dans leur classe? Notamment, ça peut avoir aussi des incidences graves, parce qu'on se dirige, on risque de se diriger vers une pédagogie frontale, essentiellement tournée vers une transmission, qui réjouira peut-être des réactionnaires. Je pense à M. Fickle-Kraut qui annonçait que seule la pédagogie transmissive était valable, qui est une incroyable stupidité, et quid de l'élève chercheur, du futur citoyen à l'esprit critique. Et le deuxième exemple, c'est, ça pose un problème philosophique qui se pose à la fois pour les sciences et la technologie. C'est-à-dire que soit la technologie et la science correspondent à un besoin, et à ce moment-là, on recherche à satisfaire ce besoin, ou alors ça correspond à une recherche, voire à une lubie des chercheurs qui trouvent un objet technologique et qui disent, voilà, on va prendre cet objet, mais sans en mesurer les conséquences qui peuvent être extrêmement graves.
Alors, Patrice, on vous répond. Jean-Gabriel Ganassia.
Alors, effectivement, il y a eu des tentatives depuis un certain nombre d'années pour mettre en place des formations qui soient uniquement informatiques, hein, ce qu'on appelle les MOOC. Il y a eu d'ailleurs d'autres tentatives antérieures à cela parce que ça ferait faire des économies considérables. Mais l'expérience a montré que ça ne marche pas, et je crois que cet auditeur a raison, s'il n'y a pas un complément, c'est-à-dire une complémentarité entre les cours en ligne d'un côté, et puis un suivi extrêmement précis, incarné par un professeur, avec un diagnostic cognitif, un suivi de l'étudiant. Hein, et donc aujourd'hui, hein, il apparaît bien clair qu'il n'y a pas uniquement des formations en ligne, mais il y a une complémentarité à la fois d'outils en ligne, qui ne sont pas d'ailleurs uniquement des MOOC, hein, quelquefois ce sont des outils qui sont... qui donne du matériau aux étudiants, qui permettent aux étudiants de faire des exercices, et puis ensuite, un suivi humain, c'est extrêmement important, je crois, de bien comprendre ça.
Nombreuses réactions d'auditeurs sur le site de l'émission. Jean-Louis, il écrit « Gain de productivité, mais qui va en profiter, les actionnaires ou ceux qui n'auront plus de travail ?» Là est la question. Et puis Anne nous a écrit « Je suis atterré par ce que j'entends. Pourquoi vouloir à tout prix remplacer les hommes, remplacer les artistes, remplacer les chauffeurs de taxi ? L'intelligence artificielle se trompe totalement de cible avec une augmentation du chômage et du nombre d'hommes sur la planète. Il faut créer des machines qui aident les hommes, pas qui les remplacent. » C'est vrai qu'il y a beaucoup de remarques à propos des conséquences pour l'emploi de cette intelligence artificielle. Certains experts parlent de millions d'emplois détruits. Alors sur ce dossier, vous avez senti hein, les réticences des auditeurs. Jean-Gabriel Ganassia.
Alors, première chose, il y a un certain nombre d'études sur la disparition des emplois qui sont non fondées. Je vais citer en particulier des articles publiés par l'Université d'Oxford. Il y en a eu un il y a 2 ans, il y en a eu un en 2017, où ils expliquent d'ici 30 ans, 90% des emplois auront disparu. Quand vous lisez les articles, vous vous rendez compte que la méthodologie est dérisoire. Par exemple, le dernier article, ils sont allés dans une conférence d'intelligence artificielle et ils ont interviewé les chercheurs en disant quand est-ce que telle tâche aura
disparu. Jean-Gabriel Ganassia, donc, vous êtes un spécialiste de l'intelligence artificielle, vous avez écrit un livre « Le temps des robots est-il venu ?» Dites-nous, vous, ce que vous savez sur le sujet. Y aura-t-il des millions de suppressions d'emplois ?
Alors, non, je ne pense pas. Et surtout, on n'en sait rien. Personne n'en sait rien. Les études sont contradictoires et elles ne permettent pas d'affirmer aujourd'hui qu'il y aura des disparitions massives d'emplois. Mais ce que je peux dire, en revanche, c'est que l'emploi va se transformer. Ce sont en réalité, non pas des emplois qui vont disparaître, ce sont des tâches qui sont automatisées. Et une tâche, ça n'est pas un emploi. Et donc, vous avez des métiers qui vont évoluer avec l'intelligence artificielle. Alors, ça peut être négatif pour certains, mais ça peut être positif parce qu'il y a des tâches qui sont extrêmement pénibles, qui sont répétitives, qui sont fastidieuses, qui usent les hommes, et celles-là, on peut les automatiser. Le problème, bien sûr, c'est que les gens dont le métier était simplement d'exécuter ces tâches risquent d'avoir des problèmes. Hein. Et ça, c'est une question qui s'est posée à toute époque de l'histoire, chaque fois qu'il y a eu des évolutions technologiques. Mais, en revanche, je crois qu'il faut de nouvelles compétences, et donc il faut être capable, et ça rejoint le problème de la formation, de former les gens pour exercer ces nouveaux métiers qui vont se développer dans l'avenir. Donc je ne pense pas qu'on puisse être pessimiste. Je crois qu'au contraire, il faut regarder le futur tel qu'il est. Alors je voudrais quand même revenir sur quelque chose qu'a dit une auditrice. Elle a dit « on veut remplacer les hommes ». Non, on ne veut pas nécessairement remplacer les hommes. Je crois que la machine avec l'intelligence artificielle, ça peut être aussi un partenaire et ça permet à des hommes de faire mieux un certain nombre de tâches. Et donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas que des aspects négatifs, au contraire. Sinon, je ne ferais pas d'intelligence artificielle, d'ailleurs. Je pense qu'il y a beaucoup de choses passionnantes et positives avec l'intelligence artificielle.
Rodolphe Gélin, sur ce dossier de la suppression des métiers à cause de certains métiers à cause de l'intelligence artificielle.
On peut pas nier qu'il y a certainement des tâches, voire même des métiers qui vont disparaître, comme les poinçonneurs de tickets de métro ont disparu. Voilà. Et c'est à nous maintenant, c'est comme le disait fort justement Jean-Gabriel, c'est par la formation qu'il faut arrêter de former des gens à faire des trous dans les tickets de métro ou à faire des métiers qui vont disparaître. Donc là, il y a une grosse responsabilité politique. Et quand on fait un plan sur l'IA, ça fait partie pour le gouvernement de mieux préparer le chemin de formation pour les jeunes et de faire moins de formation en perçage de tickets de métro et plus de en apprentissage de systèmes experts ou de systèmes à base d'apprentissage. Voilà, ce sont des nouveaux métiers qui vont apparaître aussi. Et puis, il y a des métiers aussi qui vont toujours rester là. Moi, j'aime bien parler du beau métier de plombier. Bah, voilà, l'intelligence artificielle n'est pas prête de remplacer les plombiers. Et donc, c'est pas vrai aussi de dire qu'il y aura que des gens très, très intelligents qui trouveront du boulot. Il y aura aussi encore plein de travail pour des gens qui ont une habileté manuelle et qui veulent faire ce type de travaux.
Mélanie est à Saint-Maurice. Bonsoir Mélanie.
Bonsoir.
Bienvenue sur l'antenne de France Inter. Nos invités vous écoutent.
Merci, bonsoir. J'aurais aimé poser une question aux invités par rapport à l'intelligence artificielle. Comment un robot doit réagir en cas d'accident? Je prends l'exemple d'une voiture. Si un accident se présente, comment le robot fait? Est-ce que il cause le mort du conducteur ou alors peut-être d'une personne qui marche sur le trottoir? Quelle décision doit le robot prendre?
Jean-Gabriel Ganassia.
Ben, s'il se retrouve dans une situation délicate, hein, comme celle que décrit Mélanie, hein, où donc il doit prendre une décision, hein, ben à ce moment-là, bien sûr, il va falloir qu'il réponde aux critères qu'on a mis dans la machine. Hein. J'ai parlé tout à l'heure des questions d'éthique. Hein. L'éthique, c'est lié souvent à des dilemmes. Hein, et donc là, elle parle d'un dilemme éthique. Alors c'est un dilemme, bien sûr, qui a été beaucoup popularisé parce qu'il est très traumatisant. Hein, parce qu'on dit, par exemple, avec les voiture autonome, si tout d'un coup la voiture arrive en haut d'une côte, qu'il y a 5 passants et puis que il n'y a pas d'autre de possibilité pour s'arrêter, à ce moment-là, soit elle écrase les 5 passants, soit elle se crache et elle tue son conducteur. Et à ce moment-là, la voiture que vous aurez achetée, vous l'aurez achetée pour qu'elle vous tue. Hein, ce qui est assez traumatisant. Alors bon, je pense qu'il faut raisonner de façon plus sereine. Les voitures autonomes seront adoptées si le nombre d'accidents est d'un ordre de grandeur inférieur à ce qu'il est aujourd'hui. S'il y a 10 fois moins d'accidents, si en France, au lieu d'avoir à peu près 3000 morts par an, vous avez 300 morts par an, à ce moment-là, je pense que ce sera positif pour tout le monde. Et la voiture autonome, en tout cas, elle évitera beaucoup d'accidents. Il n'y aura pas de voitures autonomes qui seront en état d'ébriété. Hein, il y aura des voitures autonomes qui seront attentives, qui ne s'endormiront pas au volant. Et ça, je pense que ce sera très positif.
Il faut savoir,
Rodolphe Gélin,
quand l'auditrice pose cette question, c'est une très bonne question, mais elle-même, qu'est-ce qu'elle ferait au moment où elle doit hésiter entre écraser un petit enfant ou une vieille dame, qu'est-ce qu'elle va faire? Pourquoi? Et c'est un dilemme pour elle. Pourquoi le robot, il serait plus fort moralement que la personne pour prendre ce type de décision? Donc il ne faut pas non plus reporter toutes ces questions très très auprès de machines. C'est même peut-être pas souhaitable de dire que l'éthique, en fait, c'est ma voiture qui va choisir s'il vaut mieux écraser une vieille dame.
Rodolphe Gélin, je rappelle que vous êtes vice-président de cette société de robotique SoftBank Robotics. Des questions internet très précises. Peut-on imaginer que des robots administrateurs puissent prendre des décisions dans les entreprises et puis l'intelligence artificielle dans le domaine de la justice, est-ce que ça peut marcher? Alors, des robots administrateurs dans une entreprise.
Voilà, encore une fois, on va donner des règles. Et si les règles, elles sont bien comprises, si on a donné soit on a donné des règles de fonctionnement d'une entreprise, soit on a donné des tas d'exemples de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire, bah, si le métier d'administrateur, il peut être formalisé de cette façon-là, oui, l'intelligence artificielle pourra au moins assister un administrateur en lui disant, ben voilà, dans tous les cas qu'on a eu avant, c'est plutôt cette décision-là, mais c'est bien qu'à la fin, il y a un homme qui s'appuie sur toutes les connaissances extraites par l'intelligence artificielle pour prendre à lui une décision bien informée. Et dans la justice, c'est pareil. Dans la justice, aujourd'hui, un avocat, on voit dans les films américains, le gars, il se rappelle d'un cas au fond du Minnesota d'il y a 30 ans. La machine, elle n'aura aucun problème à se rappeler de ça. Elle pourra traiter tous les cas, connaître toutes les jurisprudences et puis sortir les cas les plus similaires à un avocat ou à un juge. Et pour comme ça, il y aura une justice qui sera beaucoup plus égale parce qu'elle ne dépendra pas de la mémoire instantanée du stagiaire ou de l'avocat. Donc oui, dans la justice, ça peut être une aide, encore une fois, comme le disait Jean-Gabriel, une aide très très précieuse pour que les décisions humaines soient prises entreprises de façon beaucoup plus, beaucoup mieux informée.
Jean-Gabriel Ganassien.
Alors, tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Rodolphe Jolin jusqu'ici. Ça peut être une aide, ça peut être une aide à l'avocat, ça peut être une aide au magistrat, au moment de prendre la décision. Mais, bien sûr, il faut pas croire que tout est aussi positif. Hein, il y a des applications potentielles au domaine de la justice, qui peuvent poser des problèmes éthiques. Et en particulier aux États-Unis, hein, il y a la tendance dans certains États à faire ce qu'on appelle de la justice prédictive, c'est-à-dire à établir les peines en fonction de la probabilité de récidive. Hein, et ce genre de choses, bien sûr, fait appel à des techniques d'intelligence artificielle, en particulier d'apprentissage machine, qui posent un certain nombre de problèmes fondamentaux, hein, philosophiques, hein, sur la nature de la peine, et éthiques aussi, parce que aux États-Unis, hein, il semblerait que les éléments d'information que l'on utilise pour établir cette probabilité de récidive soient biaisés et soient plutôt discutables. Qui a des côtés discriminatoires dans ce type d'éléments d'information. Par exemple, on demande à des gens combien de fois ils se sont fait arrêter dans les 6 derniers mois. Et bien évidemment, les gens qui habitent des quartiers défavorisés ont beaucoup plus de chances de s'être fait arrêter de nombreuses fois dans les derniers mois. Donc voilà un peu les problèmes que ça peut poser. Je crois que plus généralement, hein, la question de l'intelligence artificielle, c'est pas la machine qui va prendre le pouvoir, c'est les hommes qui risquent de mal utiliser l'intelligence artificielle. Et je crois que il faut se battre pour que les gens comprennent exactement quels sont les enjeux autour de l'intelligence artificielle afin qu'ils fassent avec l'intelligence artificielle une société qui soit meilleure et pas une société qui soit plus injuste.
Donc on ne sera pas les esclaves des robots.
Non, mais on risque d'être les esclaves des hommes. Et ça, je pense qu'il faut lutter contre.
Jean-Luc est avec nous. Jean-Luc, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous êtes à Verne-sur...
Verne-sur-Sèche.
Ouais. Verne-sur... Ça se trouve où,
Verne-sur-Sèche ? C'est juste au sud de Rennes.
Très bien. Jean-Luc, on vous écoute.
Oui. Alors, donc, en fait, j'ai une question. En fait, si on apprend à un robot à apprendre, alors même si ce sont les hommes qui ont programmé les robots, alors les robots vont devenir autonomes. Et moi, ma question, c'est comment éviter ce risque ?
Alors, Jean-Gabriel Ganassia ?
Les machines apprennent depuis pas mal de temps. Et effectivement, lorsqu'elles apprennent sur des exemples, il y a des moments où elles nous surprennent, parce qu'elles ont un comportement qui n'est pas tout à fait celui que l'on a imaginé. Alors, d'un côté, ça nous réjouit, parce que c'est comme ça qu'une machine l'a emporté sur le meilleur joueur au monde, au jeu de Go. Mais bien sûr, quelquefois, ce comportement peut être déroutant. Et donc c'est pour ça que depuis un certain temps, on s'intéresse à deux choses. D'une part, au fait que les machines expliquent ce qui les a conduits à une certaine décision, donc ce qui est difficile, pour l'instant c'est un enjeu majeur. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on veut rajouter sur les machines des systèmes prescriptifs, c'est rajouter justement des règles qui contraignent leurs actions à obéir à un certain nombre de règles pour qu'elles n'outrepassent pas un certain nombre de principes qui nous semblent tout à fait importants.
Ça réagit très vite sur le site de l'émission. Rodolphe Gélin, vous avez parlé des plombiers qui vont toujours exister malgré la présence de l'intelligence artificielle. Alors on a des réactions outrées hein, d'auditeurs, de plombiers qui disent on est très vexés, qu'est-ce que ça veut dire ? Les plombiers sont des gens intelligents. Qu'est-ce que vous répondez, Rodolphe Gélin ?
Je dis justement qu'ils ont une intelligence qui sera très difficile à coder dans l'intelligence artificielle. C'est précisément ça. Bon. C'est une intelligence non seulement de compréhension d'un problème et de traitement du problème qui est très difficile à modéliser et à rentrer dans une intelligence artificielle.
Daniel à Paris. Bonsoir, Daniel.
Oui, bonsoir. Merci de prendre ma question. Écoutez, j'ai une double crainte. Elle est à la fois politique et économique. Donc avec Cédric Villani, on va, excusez le terme, pondre un rapport que, je pense, on va finir par enfouir dans une armoire de fer, ou du moins en utiliser quelques aspects pour investir quelques millions ici et là. Or, sur le plan économique, nous avons des pays continents comme la Chine qui va investir 150 milliards de dollars d'ici moins de 10 ans pour être numéro un mondial dans l'intelligence artificielle, au niveau des États-Unis. Et nous, nous sommes sur un plan géopolitique en France, voire en Europe, très en retrait. Donc j'ai peur que les savoir-faire ne quittent en fait la France, l'Europe, au pays, au profit d'États continents. Et je regrette qu'on aborde que l'aspect technique de l'intelligence artificielle, au demeurant extrêmement intéressant, mais qu'on passe à côté de l'essentiel, c'est-à-dire traduire en politique concrète d'aide aux entreprises ou en action publique, un véritable armement de l'intelligence artificielle, au même titre que le discours sur le chômage, le discours sur l'égalité, le discours sur la police, le discours sur ceci, cela. Donc, je ne sens pas un véritable intérêt en profondeur du politique au niveau français, au niveau européen, de nature à nous armer pour l'avenir face à des États continents faire des sauts technologiques tels qu'ils vont devenir les leaders mondiaux.
Daniel,
face à nous, Europe, qui allons décliner. Ah. C'est un peu ma crainte et j'aimerais avoir la réaction de vos intervenants. Je vous remercie.
Eh bien, tout de suite, Jean-Gabriel Ganassia.
Alors, première chose, je partage une partie des craintes de cet auditeur.
Lesquelles ?
À savoir qu'il y a des États-continents qui ont pris la mesure de l'importance des technologies de l'intelligence artificielle pour le futur de l'économie.
Quels États-Unis ?
C'est la Chine, en partie, et puis c'est les États-Unis aussi.
Oui.
Alors les États-Unis le font de façon différente, mais ils parviennent à le faire.
Mais nous, on s'y met un petit peu tard ?
Alors, nous nous y mettons un peu tard. Mais j'ai l'impression, et je fais crédit quand même au gouvernement actuel, d'avoir eu la volonté de mettre en place une équipe avec quand même un des plus grands mathématiciens français actuels, et qui, je l'ai croisé, il m'a interviewé, je pense qu'il a dû interviewer Rodolphe, il a interviewé beaucoup de gens, et avec beaucoup d'attention, il a essayé de comprendre quels étaient les enjeux et qu'est-ce qu'on peut faire. Et moi, je ne suis pas totalement pessimiste, je pense que l'histoire dans ce secteur-là est longue et il se peut très bien que ce qui au départ était peut-être un retard devienne une avance parce qu'en même temps, comme l'a dit Rodolphe Gélin tout à l'heure, nous avons en France, je crois, de très bonnes formations mathématiques et de très bons ingénieurs et donc je pense que si les gouvernements mettent en place des dispositifs d'aide aux entreprises et aux universités et au couplage entreprise-université, je pense qu'il y a des possibilités pour lancer des grands projets. Puis il y a un deuxième problème en Europe qui est le fait que les pays sont trop petits. Et donc je pense qu'il faudra qu'il y ait effectivement des ouvertures européennes et des coordinations des politiques des différents pays à l'intérieur de l'Europe.
Ah, beaucoup de questions, de remarques. Je résume et puis c'est bientôt la fin de l'émission. Rodolphe Gélin, on a des questions précises. L'intelligence artificielle et l'électroménager. Ça va donner quoi ?
Ça va donner robots électroménagers, c'est ça. Ouais. Alors, ce qu'on espère, c'est d'avoir ce qu'on appelle des maisons intelligentes, des maisons qui vont apprendre notre rythme de vie. Et notamment, nous, ce qu'on regarde d'assez près, c'est comment cette intelligence artificielle pourrait s'occuper des personnes âgées, détecter des comportements anormaux qui méritent qu'on fasse un signalement à la famille ou au médecin. Donc voilà, cette intelligence-là, elle peut être utilisée pour un vrai bienfait apporté aux personnes parce que le numérique est capable de bien comprendre comment on fonctionne et de détecter des anomalies et de nous conseiller sur... dans un premier temps, je crois que ces populations en perte d'autonomie sont celles qui pourront bénéficier le plus vite et le plus spectaculairement de ce type de technologie.
Et l'aspirateur ?
Un aspirateur intelligent, c'est indispensable.
Indispensable.
Qui n'en
a
pas chez lui, vraiment, vers une bonne partie de son temps à pousser son
vous évoquiez à l'instant l'analyse des comportements de certains. Est-ce que dans ce domaine, là aussi, l'intelligence artificielle pourra faire de la reconnaissance faciale et reconnaître éventuellement des comportements suspects, dangereux, dans une gare, dans le métro, dans un bus ?
Oui, ce sont déjà des choses qui existent plus ou moins. Quant à la reconnaissance faciale, là, le dernier téléphone très à la mode fait ça extrêmement bien, de façon très très robuste. Donc en effet, ce sont des choses qui sont aujourd'hui tout à fait accessibles et qui vont soulager pas mal les gens qui surveillent des écrans à longueur de journée. Alors il y aura des erreurs, c'est pour ça qu'après il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui décide. Là ils ont parlé pas mal d'une erreur qui est de l'intelligence artificielle sur la fameuse goal light technologie en football où le système n'était pas capable de reconnaître si le ballon était rentré dans le but parce qu'il prenait le coude du gardien de but qui était de la même couleur que le ballon. Pour le ballon. Donc ça exprime bien les problèmes que l'intelligence artificielle dans le vrai monde va avoir à rencontrer.
Encore beaucoup de questions. Je pense qu'il faudra faire une nouvelle émission sur ce sujet qui nous concerne, l'avenir que nous allons découvrir dans 10, 20, 30, 40 ans sur l'intelligence artificielle. Merci à Jean-Gabriel Ganassia et Rodolphe Gélin. C'était le 18-20. On ferme. À la technique, il y avait toute cette semaine Patrick Henry. Gaël Braouzec, Arnaud Caillé et Philippe Duclos. La réalisation a été signée Gaëtan Colli. La rédaction en chef de l'émission, c'est Marie-Claude Pinson. Et la préparation en coulisses, la documentation, les coups de téléphone partout, eh bien c'est Aurélie Boiseau, Jimmy Bourquin, Nathalie Poitevin. Merci beaucoup. Sans vous, rien ne marcherait. Et la semaine prochaine, Fabienne Sintès.